Commentaires avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
Bonjour et bienvenue dans Commentaires. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter naturellement sur les suites de ce qui se passe au Proche-Orient avec Frédéric Ancel. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Merci d'être à nouveau avec nous. Vous étiez déjà là la semaine dernière, mais nous avons considéré que les événements qui se sont déployés justifiaient votre présence à nouveau pour nous éclairer. Vous êtes l'auteur des Voix de la Puissance édité chez Odile Jacob et d'un atlas géopolitique d'Israël qui est édité chez Autrement. Donc nous allons évidemment commencer par le voyage de Joe Biden, du président américain, qui a fait donc un aller-retour à la fois très bref et très dense en Israël, après avoir espéré pouvoir réunir aussi le maréchal, enfin le président Al-Sisi, le roi de Jordanie, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Réunion qui a été annulée à la demande des intéressés après l'épisode, le sinistre épisode de l'hôpital de Gaza, d'un des hôpitaux de Gaza, attribué par le Hamas à Israël, qui a provoqué la levée de boucliers que l'on sait, l'annulation de cette réunion et un vent de colère et de fureur dans le monde arabe, alors même que plus on avance et plus on peut mettre en doute la version, évidemment, du Hamas. On ne sait pas encore tout, mais on sait déjà à peu près sûrement que ça n'était pas un missile israélien. Donc Joe Biden arrive donc en Israël, parle aux Israéliens sur deux plans, au fond, d'une part pour les rassurer, et pour leur dire que les États-Unis sont là pour les défendre. Et d'ailleurs, il y a deux groupes aéronavals, deux porte-avions escortés de leur petit navire, petit, tout est relatif, qui sont au large donc d'Israël et du Liban, pour, j'imagine, décourager le Hezbollah de lancer un nouveau front. Et puis, un discours aussi toujours destiné à Israël, mais d'une autre nature, faisant référence aux erreurs des États-Unis, notamment la guerre d'Irak, l'Afghanistan, en disant, vous voyez, on s'est laissé emporter par la rage et on a été déraisonnable sur ces deux fronts, et donc incitant Israël à la prudence, et en même temps rappelant et revenant à une doctrine ancienne qui avait été évidemment abandonnée par Donald Trump, des deux États, et donc réaffirmant que l'objectif stratégique doit être deux États. Alors, comment regardez-vous vous-même, Frédéric Ancel, ce voyage, et quelles peuvent en être les incidences, les conséquences sur le terrain d'abord, aux États-Unis ensuite?
Alors pour moi, c'est un sans faute de Joe Biden. Je m'explique. Il a été intelligent dans son discours en rappelant exactement ce que vous venez vous-même de rappeler avec raison, à savoir que les Israéliens vont y aller. D'ailleurs, il ne les empêche pas d'y aller. Il n'y a absolument pas du tout de pression pour ne pas entrer à Gaza. Simplement, il a insisté pour que l'humanitaire puisse se déployer. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Mais effectivement, il a rappelé que la vengeance parfois était un piège. Et en même temps, il leur fournit du réconfort, pas seulement sur le plan sémantique, mais on parle d'une enveloppe décennale de plusieurs dizaines de milliards, qui sera d'ailleurs nécessairement accordée, puisque les républicains sont tout à fait d'accord avec cela, la grande majorité des démocrates aussi, et qu'on arrive par ailleurs en période électorale. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, deuxième cercle concentrique en quelque sorte, c'est le Hezbollah et l'Iran. Et en approchant deux porte-avions et tous les bateaux très costauds qui vont avec, en réalité, Joe Biden dit à l'Iran et au Hezbollah, vous n'ouvrez pas un second front. Du reste, hier, plusieurs missiles ont été tirés par les Houthis proches de l'Iran et armés par l'Iran. Alors, ce sont des rebelles du Yémen, des missiles qui manifestement étaient tirés vers Israël. Et ils ont été interceptés par qui ? Pas par la chasse israélienne, mais par des missiles tirés depuis un destroyer américain. Donc là, le mot en quelque sorte est extrêmement clair et il est accompagné d'une geste en quelque sorte militaire extrêmement rare, hein, même en faveur des alliés des États-Unis. C'est comme très très rare qu'on approche des côtes d'un allié en guerre de groupes aéronavals, surtout que la guerre ne se fait pas contre un autre État. Et enfin, ne l'oublions pas, le troisième cercle concentrique consiste à dire, enfin avec cette visite et ce soutien très ferme à Israël, il s'agit pour Biden de dire à la Russie et à la Chine, nous sommes de retour. Je me permets de vous rappeler, mais je pense que beaucoup de vos auditeurs le savent, qu'une base aéronavale très importante russe se trouve à moins de 200 km des côtes dont on est en train de parler, à Tartous, en Syrie. Et il n'aura échappé non plus, enfin à personne, je crois, que Poutine a laissé littéralement l'espace aérien syrien aux chasseurs-bombardiers israéliens il y a quelques jours, qui ont frappé l'aérodrome de Damas, où arrivent très régulièrement des matériels iraniens. Alors, vous voyez que c'est, on a affaire à un président qui a joué le maximum de ce qu'il pouvait faire, non seulement avec des mots, avec des gestes, avec des promesses extrêmement concrètes, histoire de dire, vous avez tous pensé, vous autres, notamment en Russie et en Chine, que nous avions abandonné en quelque sorte le Proche et Moyen-Orient, mais pas du tout. D'ailleurs, j'ai envoyé, moi, Biden, Blinken faire une tournée de nos alliés, parce que les alliés des États-Unis, malgré tout, sont toujours là et très proches des Américains et plusieurs abritent d'ailleurs des bases américaines. Je pense à commencer bien évidemment par Égypte, Jordanie, Émirats, Koweït, etc. Et il va falloir compter avec nous. En attendant, vous laissez tous agir Israël. Pour moi, à mon niveau, je le considère que c'est un sans faute. Maintenant, je ne vous dis pas que les conséquences seront aussi positives que celles escomptées par M. Biden.
Jean-Claude.
Oui, non, je suis en gros d'accord. J'ajouterai sur le problème de l'hôpital, il y a un journaliste américain qui a rappelé une excellente formule. Il ne sait pas si elle est de Churchill ou de Mark Twain, je ne sais pas non plus. C'est que un mensonge peut courir la totalité du monde pendant que la vérité a à peine le temps de mettre ses chaussures. Et c'est vrai, et ça sera une arme stratégique du Hamas, c'est-à-dire que il se protégera à l'intérieur de la population et à l'intérieur des centres protégés, si j'ose dire, les églises grecques et les hôpitaux. C'est un hôpital anglican, d'ailleurs. Et bon, il faut prendre ce fait comme il faudra vivre avec. Le deuxième point, c'est qu'un critique juif américain de la position de Biden, on doit en tenir compte, a dit le discours est parfait, mais il manque un mot, c'est le mot le plus important, c'est l'Iran. Effectivement, Biden est prudent vis-à-vis de l'Iran, prudent sans doute légitime, qui veut certainement empêcher toute initiative d'Israël à l'égard de l'Iran. Il y a ce point de vue-là, et ça fait partie du domaine. Israël, je crois, ne peut rien faire vis-à-vis de l'Iran sans l'accord américain. Et donc la très grande difficulté de la situation pour Israël, c'est qu'Israël ne peut rien faire vis-à-vis de l'Iran. L'Amérique la modère et lui impose des conditions humanitaires. Et l'intervention sur Gaza est extrêmement difficile, compte tenu d'un Hamas qui se protège par la population et par un mécontentement mondial sourd à l'égard des États-Unis, parce que le discours de Biden est admirable du point de vue de Biden et du point de vue des États-Unis et du point de vue d'Israël, mais ce qui me frappe aussi, c'est par exemple que Guterres, le secrétaire général des États-Unis, soit sur place pour harceler Israël alors qu'il n'a pas dit grand-chose sur le massacre qui s'est produit en Israël. Il y a comme une disproportion dans la sauvegarde à l'égard de Hamas et dans la sauvegarde aux dégâts collatéraux qui peuvent se produire, il y a comme une disproportion et qui met Israël en situation de souffrance et en situation de difficulté.
Frédéric,
oui, Frédéric Ansel. C'est juste, et ce qui est d'ailleurs très, 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 très injuste pour Biden, parce qu'il a évoqué l'État palestinien. Et il a parfaitement raison. C'est-à-dire qu'en fait, le grand problème d'aujourd'hui, c'est le jour d'après. Si Israël détruit militairement le Hamas, ce que souhaitent évidemment les Américains, mais ce que souhaitent aussi un certain nombre de régimes arabes, quand même, hein, dont il faut rappeler qu'ils ont eu mal à partir aux frères musulmans, aux terribles Ikhwan, qui ont tué d'ailleurs accessoirement en Égypte, Sadat en 81, et beaucoup d'autres hommes et femmes de paix dans la région, et jusque y compris au Maroc. Donc personne dans le monde arabe, je parle des dirigeants, n'aime réellement le Hamas. Mais le jour d'après, c'est quoi? Une fois que les Israéliens, s'ils y parviennent, ce n'est pas certain, réussissent à désarmer militairement le Hamas. Est-ce que c'est l'autorité palestinienne qui revient prendre en charge ce qui lui incombe, de 2005, après le retrait israélien de 2005, à 2007 sur le putsch du Hamas, c'est l'autorité palestinienne. L'interlocuteur légal et légitime aux yeux du quartet, donc de la communauté internationale, qui dirigeait la bande de Gaza. Maintenant, est-ce que on peut compter sur monsieur Mahmoud Abbas, qui n'a jamais démontré depuis qu'il est au pouvoir, c'est-à-dire depuis 2005, que c'était un foudre de guerre? Est-ce que on peut, y compris sur le plan politique, est-ce qu'on peut compter sur l'autorité palestinienne pour prendre en charge, avec évidemment le soutien militaire d'un certain nombre de pays, y compris les Américains, mais certainement d'Égypte aussi d'ailleurs, et soutien économique du Japon, de l'Europe, de l'Amérique du Nord, bref, comme à chaque fois qu'il faut reconstruire quelque chose au Proche-Orient, est-ce qu'ils accepteront de prendre en charge cela? Parce que si l'autorité palestinienne, le jour d'après, n'est pas là, alors là, on est dans le gouffre. C'est-à-dire, on est dans l'incertitude totale.
Ils n'osent pas faire d'élections.
Et bien sûr qu'ils n'osent pas faire d'élections, mais par définition. Et donc là, qu'est-ce qui se passera? Parce que, encore une fois, d'ailleurs, c'est ce que une grande partie de la presse et beaucoup de citoyens israéliens disent aujourd'hui, avec leur niveau de conscience civique et souvent morale et intellectuelle, qui peut les caractériser? Très bien, nous allons y aller. Ça suffit maintenant, c'est la der des der. Le Hamas, ça suffit. Très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a détruit le dernier missile du Hamas? On reste? Non. Les Israéliens sont vaccinés contre l'occupation.
Alors justement, avant cela, comment regardez-vous et comment voyez-vous ou anticipez-vous, je ne sais pas si c'est possible d'ailleurs, l'intervention qui se prépare d'Israël à Gaza? Certains disent qu'au fond, l'objectif visible d'Israël serait d'isoler le nord de la bande de Gaza et donc d'entrer dans Gaza, mais en essayant de faire une espèce de zone tampon entre la frontière israélienne et la limite qu'ils définiront, de façon à éviter que le sud d'Israël soit victime de ce qui s'est passé, notamment au mois de les 7 et 8 octobre dernier. Est-ce que c'est vers cela qu'on va? Parce qu'on voit mal, donc ça voudrait dire occupation malgré tout d'une partie du territoire de Gaza.
Alors non seulement ça signifierait occupation, les Israéliens n'en veulent pas, et d'autre part ça serait insuffisant, parce que là on a affaire à des... On parle de surfaces territoriales qui sont absolument picrocollines. C'est tout petit, Gaza, c'est minuscule. Donc c'est un petit peu moins de 40 km de long et entre 6 et 13 km de large. Enfin, donc ça ne suffirait pas, puisque les missiles aujourd'hui peuvent toucher pratiquement le nord d'Israël à partir de Gaza. Donc ça ne suffirait pas. Donc je pense que c'est le but de guerre, c'est le désarmement du Hamas avec finalement un seul véritable critère, c'est qu'il n'y ait plus de missiles qui tombent sur Israël. C'est revers, le poète Reverdy disait, il n'y a pas d'amour, il y a des preuves d'amour. Ben, il n'y a pas de désarmement du Hamas, il y a des preuves de désarmement du Hamas. Et il faut que ce gouvernement, parfaitement incapable par ailleurs, et considéré comme tel avec raison par les Israéliens, puisse démontrer qu'au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, il n'y a toujours aucune, il n'y a plus de missiles, et évidemment, plus de terroristes qui rentrent en Israël. Bon, ça, je pense qu'ils vont multiplier les barrières. Mais par contre, les missiles, c'est un vrai problème. Après, dans la bande de Gaza, les gens peuvent bien prier pour qui ils veulent, et le Hamas peut bien crâner en disant, mais finalement, nous sommes encore vivants, certes. Mais peu importe, pour les Israéliens, l'important, c'est qu'il n'y ait plus de dommages, en quelque sorte. Et là, à mon avis, le seul critère possible, c'est celui très concret dans la vie quotidienne des Israéliens pour des années ou des décennies, c'est ne plus être bombardé à partir de la bande de Gaza et bien sûr ne plus subir des infiltrations de terroristes.
Oui. Non, mais tout le problème, c'est un problème chirurgical, c'est-à-dire comment réussir une opération chirurgicale de désarmement du Hamas sans provoquer une vague mondiale détriment d'Israël.
Ça dépendra des victimes civiles, du nombre de victimes civiles. C'est ça qui va être observé à la loupe, parce que c'est évidemment ça qui a déjà commencé de renverser et a renversé l'opinion au-delà d'Israël, et c'est ce qui peut arriver de pire, évidemment.
Alors, avec une petite nuance catastrophique, si vous permettez, au moment où Israël n'avait pas encore réagi, autrement dit, le jour du massacre, le 7 octobre, le 8, le 9 octobre, on a enregistré en France et dans plusieurs pays d'Europe, y compris d'ailleurs en Amérique du Nord, plusieurs centaines d'actes, de délits à caractère antisémite. Oui. Or, Israël n'avait pas encore réagi. Autrement dit, non seulement je suis ce que vient de dire Jean-Claude Canada, mais c'est bien pire, ça va au-delà. De toute façon, dans une partie, je dis bien une partie, je reviens du Maroc, c'est globalement extrêmement calme, c'est tenu, il y a une grande manifestation à Tanger, certes, mais beaucoup plus calme et certainement pas antisémite, contrairement à ce qu'on peut suivre, malheureusement, vivre ici en France, en Allemagne, etc. Il y a effectivement des réactions très épidermiques, mais dans le monde arabe, ça peut se comprendre. Après tout, le peuple palestinien est un peuple arabe, le musulman. Très bien, c'est logique tout cela. Mais je pense que de toute façon, Israël subit un passif, en quelque sorte, ne serait-ce que par sa propre existence, quelque part. Et il faut toujours revenir à la charte du Hamas. Au fond, l'OLP a été créée en 64 lorsqu'il n'y avait pas de territoires occupés, et l'OLP, à l'époque, souhaitait déjà la destruction d'Israël. Bon, alors ensuite, heureusement, il y a eu les accords d'Oslo. Bon,
bah, le Hamas. Les accords d'Oslo et la déclaration de Yasser Arafat disant que la charte était caduque.
Absolument.
Ce qui était fondamental, comme.
Absolument. Et c'est la raison pour laquelle je dis depuis. Je réaffirme avec force et vigueur depuis 10 jours qu'il faut absolument que le jour d'après prenne en considération et en compte sérieusement l'autorité palestinienne. Alors ça peut se faire, ça dépend d'elle. Et puis, ça dépendra aussi, et là je serai enfin peut-être un petit peu plus optimiste, d'un gouvernement israélien. Or, je puis vous affirmer qu'au regard de l'impéritie de ce gouvernement, avant et pendant et depuis, enfin le jour du 7 octobre et depuis, les Israéliens n'en veulent pas et n'en veulent plus même à droite, et qu'une commission d'enquête mise sur pied fera bien plus que ce que les trois commissions d'enquête avaient faites respectivement après la guerre du Kippour en 73-74 avec Golda Meir et Moshe Dayan. En 82-83 après Sabra et Shatila avec Begin, puis la commission Vinograd avec Olmert en 2006 lors de la guerre ratée contre le Hezbollah, c'est-à-dire faire chuter le gouvernement. Et deux des trois gouvernements que je viens de vous mentionner étaient bien plus prestigieux que le gouvernement de Netanyahou. Et à l'époque, il s'agissait de statuer sur des défaillances qui avaient coûté bien moins que ce qui s'est passé et que ce qui va se passer. Donc, le gouvernement israélien actuel, il est terminé. Netanyahou est démonétisé. Maintenant, est-ce qu'un prochain gouvernement issu soit de nouvelles élections, soit de la Knesset, mais dans le cadre d'une nouvelle coalition, centriste, sans peut-être même centre-gauche, avec des personnalités comme Lapid et Gantz, acceptera de revenir à la table des négociations avec l'autorité palestinienne? Je le crois. Donc vous voyez, je suis peut-être un petit peu trop optimiste. En tout cas, je ne suis pas dans la pensée magique. Tout cela est ouvert, c'est sur la table.
Pour rester d'un mot sur le gouvernement israélien, ce qui a frappé un certain nombre d'observateurs, c'est la précision, les détails, l'abondance des informations que détenait le Hamas sur les zones qu'il a envahies. Et donc là, il y a eu donc la qualité, au fond, du renseignement du Hamas à l'intérieur même d'Israël. Est-ce que ça aussi, j'imagine, ça fait partie de... d'un des échecs majeurs de ce gouvernement, en tout cas.
Oui, deux échecs, celui du renseignement militaire et du contre-espionnage, en quelque sorte. Là, en l'occurrence, et vous pointez du doigt cette réalité-là, bien sûr, et une responsabilité finalement beaucoup plus grave qui est politique, parce que le renseignement militaire, il fait ce qu'on lui dit de faire, et il fait avec les moyens qu'on lui donne. Et si Netanyahou considérait, ce qui est vraisemblable, que finalement... il y a un modus operandi, enfin, modus vivendi avait été trouvé avec le Hamas, et que moyennant l'acheminement de financement du Qatar via Israël, au fond, il se contenterait de gérer plus ou moins tranquillement la bande de Gaza, on a affaire, si ça se confirme, là, à une erreur encore beaucoup plus lourde, beaucoup plus grave que celle, entre guillemets, simplement, des renseignements sur le terrain.
Oui, non, ça allait... Logiquement, d'ailleurs, Netanyahou aurait dû démissionner et Israël se donnait un gouvernement militaire, disons, de consolidation de l'armée dans une situation de crise, parce que l'échec vis-à-vis du Hamas est total. Le sentiment qu'au fond, la paix était préservée vis-à-vis de la bande de Gaza et que la non-prévision de l'événement, donc il y a aucun doute là-dessus, et Israël a besoin d'un renouvellement et d'unité de son gouvernement dans la phase qui vient, qui était une phase extraordinairement difficile pour elle, parce que l'opération sur Gaza est difficile, et à terme, la reprise des négociations est extrêmement difficile aussi, parce qu'il n'y a pas de véritable interlocuteur pour Israël, pour l'instant, et il faudra du temps pour revenir sur le sillon qui était entamé, c'est-à-dire, en gros, une réconciliation avec les États arabes environnants, et l'acceptation par l'Iran d'un compromis sauvant la situation d'Israël.
Au fond, c'est une démonstration de plus, mais c'est juste une petite parenthèse, que le choix par les électeurs d'un vote extrême conduit toujours au pire. Ça se vérifie en Israël, comme ça s'est pu se vérifier ailleurs à d'autres moments dans l'histoire. Est-ce qu'il y a, aussi une autre réalité qui est apparue, qui est au fond l'islamisation de la cause palestinienne. Donc, et là, c'est patent maintenant. Évidemment, avec le Hamas, dont l'obsession est la destruction d'Israël, pour des raisons, justement, d'islamisme fanatique. Est-ce que cette islamisation emportera, ou emporte déjà aussi des conséquences dans nos pays, ou dans le regard que l'on peut avoir sur la cause palestinienne, qui pouvait être
pendant longtemps être soutenus parce que c'était une cause au fond, c'était des gens qui réclamaient un État auquel ils ont droit, ainsi de suite. Là, cette islamisation par le biais du Hamas, comment regardez-vous cela et quelles incidences peut-on d'ores et déjà, je ne sais pas anticiper, c'est bien prétentieux, mais enfin en tout cas entrevoir.
Je dirais par un faux paradoxe que d'un point de vue moyen-oriental, c'est plutôt une bonne chose. Les cartes sont maintenant sur la table. Les régimes arabes ne pourront pas continuer à tergiverser beaucoup avec l'islamisme radical. D'ailleurs, la plupart ne le font pas, mais y compris avec le Hamas. Et d'ailleurs, notez que l'autorité palestinienne, aujourd'hui, d'abord tient, contrairement à ce que beaucoup de gens trop pessimistes tentent à dire et à enterrer prématurément cette autorité, manifestement, elle tient à peu près correctement en Cisjordanie. Les policiers palestiniens n'ont pas beaucoup d'humour avec le Hamas, c'est le moins qu'on puisse dire, et les manifestations, elles sont contenues, parce que l'autorité palestinienne, elle-même, elle est menacée de mort par le Hamas, et elle, effectivement, est plutôt, enfin, c'est une institution plutôt politique et sécularisée et assez pragmatique maintenant. Donc, de ce point de vue-là, d'un point de vue moyen-oriental, je pense qu'il y a un clivage de plus en plus net entre les groupes fanatiques religieux, dont le Hamas, et les autres. En revanche, là où je serais beaucoup plus inquiet, c'est pour nous. Parce que nous avons été un certain nombre, et moi, bien le moindre derrière des gens bien meilleurs, connaisseurs encore de l'islam, de l'islamisme et de l'islamisme radical que votre humble serviteur. Ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans qu'on pointe le doigt sur la caractéristique, pas seulement politique, après tout, même les islamistes font de la stratégie, le Hamas fait de la politique et de la stratégie. Oui, mais ça c'est stratégique, mais l'objectif de ces groupes-là, c'est un objectif apocalyptique. Ça reste des djihadistes. Alors on me dit, mais c'est des djihadistes nationaux. Oui, non, mais d'accord, peu importe. Moi, je constate aujourd'hui que les islamistes dans le monde entier, pas seulement les frères d'ailleurs, hein, les salafistes, enfin, genre les frères musulmans, mais d'où sont issus les membres du Hamas, mais les salafistes aussi, suivent comme un seul homme le Hamas. Donc, effectivement, il y a ici, me semble-t-il, la nécessité, je dirais ici en particulier en France, la nécessité d'être beaucoup plus vigilant encore que ces dernières années, beaucoup plus intraitable, impitoyable, je crois que c'est le mot du président de la République, en l'occurrence, il a vraiment raison, sur les manifestations islamistes qui prennent prétexte très régulièrement du conflit israélo-palestinien. Et à ceux qui tentent d'importer le conflit israélo-palestinien, moi je pense que ce sont d'abord des irresponsables et pour beaucoup des antisémites qui ne s'assument pas. Voilà, et je pèse mes mots.
Jean-Claude Casanova.
Mais si on dessine le spectre des adversaires d'Israël, à l'intérieur du monde sunnite, c'est la fraction radicale, tout ce système, si vous voulez, qui conçoit l'unité du monde arabe comme composée uniquement de musulmans. C'est-à-dire que les non-musulmans n'ont à l'intérieur du monde arabe qu'une place inférieure de 10 000, point à la ligne. Mais c'est une minorité dans le monde sunnite. Et en gros, les gouvernements ne suivent pas cette ligne. Simplement, ils ont peur de leur propre opinion et ils ont peur de ces fanatiques qui ont du pouvoir par le terrorisme et par l'opinion. Et puis, il y a deux autres adversaires plus complexes qui sont l'Iran chiite. Israël a été autrefois souvent l'allié, si vous voulez, qui n'aime pas du tout et qui n'a rien à voir avec le radicalisme islamiste d'une certaine façon, mais qui a pris, en raison de sa position révolutionnaire et de la façon dont est apparu, dont s'est positionné l'Iran, qui a repris l'étendard, sans doute pour exercer de l'influence sur le monde arabe, a repris l'étendard de l'hostilité à Israël. Et donc, la relation avec l'Iran est extrêmement importante et les États-Unis ont un très grand rôle à jouer. Et ils oscillent d'ailleurs entre une politique de dureté à l'égard de l'Iran, de sanctions, etc., et une politique de réconciliation avec l'Iran. Donc, il y a le problème iranien. Et puis, alors, il y a le petit problème syrien, compliqué par la Russie. Ce ne sont pas des sunnites qui sont au pouvoir, c'est la minorité alaouite qui gouverne la Syrie, si vous voulez, et qu'on peut assimiler aux chiites, mais bien que ce soit très différent. Cette minorité alaouite, elle est soutenue par la Russie. Et elle a été maintenue en vie par la faiblesse d'Obama, si vous voulez, qui aurait pu venir à bout du régime syrien.
Alors, si l'on parle de la Russie, juste pour terminer, malheureusement pour terminer, Frédéric Ancel, la crainte que l'on peut avoir, c'est de ce que cet incendie qui s'est allumé et qui va peut-être, hélas, se propager davantage encore, au fond, va atténuer le soutien que l'on peut apporter à l'Ukraine et donc va faire au fond Poutine un des vainqueurs de cette situation. Est-ce qu'on peut aller jusque-là ou bien est-ce qu'on est j'allais dire caricatural en évoquant les choses de cette façon?
Un vainqueur sans que ça lui coûte quoi que ce soit et parce qu'il a décidé de renverser la table des relations internationales, de modifier substantiellement le jeu. Sauf que, les Européens de toute façon ne donnent rien sur le plan militaire à Israël. Par conséquent, il n'y a pas de raison pour qu'ils démunissent aujourd'hui l'Ukraine. On n'est pas sur le même... Vous voyez, leur soutien, il est rhétorique et sémantique et diplomatique, ce qui est beaucoup pour Israël. Mais enfin, ce n'est pas un soutien militaire. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Poutine, extraordinairement duplice, pas seulement dans la région. Je me permets de vous rappeler d'une phrase qu'il est lui-même, personnellement, signataire d'un traité d'assistance militaire mutuelle pour 60 ans avec l'Arménie. Je vous laisse apprécier. Et on laissera les Arméniens apprécier ce que vaut la parole de M. Poutine sur le plan militaire. Donc il est extrêmement duplice. Et en fait, il joue ce que j'appelle en géopolitique une capacité de nuisance. En réalité, la Russie aujourd'hui, sur le plan économique, démographique, franchement, c'est plus une grande puissance en dépit de son siège au Conseil de sécurité, son siège permanent, et de 6000 têtes nucléaires, dont on ne sait d'ailleurs pas si ce qu'elles valent au regard de ce que valent les chars russes. Enfin, je préfère pas tester. Mais ce qui est sûr, c'est que la Russie joue à fond une toxicité géopolitique un peu partout. On le voit bien en Afrique, on le voit en Méditerranée orientale, on le voit avec la Chine. Mais alors pour conclure, et d'ailleurs on en parlait tout à l'heure hors micro, ce rapprochement avec la Chine, il se fait en réalité en faveur de la Chine. Parce que la Russie est en train de s'inféoder à la Chine avec cette volonté de renverser la table. On verra bien quel sera le nouveau jeu, en quelque sorte pour filer la métaphore du joueur de cartes, dans 10, 20, 30, 40 ans. Mais ça sera certainement pas la Russie qui détiendra les principaux atouts.
Voilà, nous allons terminer malheureusement sur ces mots de Frédéric Ancel. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Frédéric, vous êtes donc l'auteur des Voix de la puissance qui est édité chez Odile Jacob et d'un atlas géostratégique ou géopolitique d'Israël qui est édité chez Autrement. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de Commentaires.